plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, hein, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
On se souvient de Malik Oussekine, cet étudiant brillant et mélomane, mort en 1986 sous les coups de policiers à moto. Mais qui se souvient d'Abdel Ben Yahia, tué lui aussi dans la nuit du 5 au 6 décembre de la même année? Un film Nos Frangins revient sur ces deux affaires si tristement semblables et si différentes, l'une ayant éclipsé l'autre. Deux histoires qui racontent la France d'alors, mais aussi celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être français? Certains sont-ils plus égaux que d'autres, pour paraphraser La ferme des animaux de George Orwell? Qu'est-ce qu'être français quand on a des parents venus d'Algérie? Autant de sujets qui viennent à la vision de Nos Frangins et dont nous allons parler avec son réalisateur Rachid Bouchareb. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir nous parler longuement de votre nouveau long métrage sorti en salle mercredi après avoir été projeté au dernier Festival de Cannes. À l'affiche de notre cinéma également, Maïmouna Doucouré, deux ans après Mignonne, la réalisatrice d'origine sénégalaise, met en scène Iseult, Oumou Sangaré ou Thomas Pesquet dans un conte moderne, Hawa. Et puis un reportage au Maroc, au Rixbar, qui entretient le mythe du classique hollywoodien Casablanca.
Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation.
Inspecteur Mattei.
Il est là-bas.
Il sait pas que son fils est mort.
Le gamin s'appelait Abdel.
On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police.
Un extrait de la bande-annonce de votre nouveau film, Rachid Bouchareb, Nos Frangins. On a entendu un bout de discours, du discours de Charles Pasqua parlant de professionnels de la déstabilisation. Alors avant de parler des deux affaires tragiques, parlons du contexte. On est en décembre 1986. Quelques mois auparavant, la droite, le RPR en tête, a gagné les élections législatives. Jacques Chirac est le premier ministre du président socialiste François Mitterrand. C'est ce que l'on appelle la cohabitation. Et l'une des premières lois de ce gouvernement de droite met le feu aux poudres, la loi dite Devaquet, qui instaurerait une sélection à l'université. La jeunesse est dans la rue. Beaucoup à droite craignent à nouveau mai 68. Donc le contexte, c'est important, parce que dès le début de votre film, Rachid Bouchareb, on entend beaucoup, et même au cours du film, on entend beaucoup la radio et la télé en voix off. Ça ancre le récit.
Oui, oui, absolument, parce que c'était important pour moi, en tout cas, de faire partager aux spectateurs toute cette partie que moi j'ai vue à la télévision. C'est pour ça que vous avez aussi tous ces présentateurs de journaux télévisés qui étaient donc Claude Sérillon, Noël Mamère, Hervé Claude.
Christine O'Krent, il me semble aussi, non?
Ah oui, à l'époque, alors ça m'a. Voilà, c'est bien de me le dire. Et donc, tous ces journalistes que je trouve qui étaient très offensifs dans le sujet, quand ils l'ont traité, ils étaient là. Ils ont vraiment dit beaucoup de choses. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus dans le sujet que les traitements d'aujourd'hui, par exemple. Pas par rapport au sujet des violences policières, mais par rapport à l'actualité en général. C'était mon ressenti à moi sur mon vécu. Et donc, je voulais que le spectateur, effectivement, puisse voir et entendre tous ces discours de l'époque, voir toutes ces images de la France entière qui descend dans la rue par centaines de milliers de personnes pour dire « plus jamais ça » au lendemain de la mort de Malik Oussekine. Voilà, c'était important de montrer ces images de manifestations immenses, immenses, qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'arrive pas à accepter. Qu'on n'aurait plus forcément, parce qu'en faisant le tour des salles en France, les gens me disaient « j'aimerais bien aller manifester, mais j'ai peur, j'ai 75 ans, je sais que je ne peux pas courir comme avant », des choses comme ça, quoi.
Vous, en 1986, Rachid Bouchareb, vous avez 33 ans. Vous vous souvenez de cette période de décembre des manifestations des étudiants contre cette loi de Vaquet ?
Oui, oui, oui. Mais moi, je m'en souviens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers l'information. Hein, j'habitais encore... En partie, hein, pas tout le temps parce que je bougeais, mais en banlieue, hein, dans la banlieue nord de Paris. J'étais plus étudiant, bien sûr, donc quand on l'est plus, mais j'étais attentif à toute l'actualité, surtout au mouvement dans la rue d'étudiants. Voilà, parce qu'on se disait, ah, les étudiants vont descendre dans la rue, ça va s'élargir à d'autres sujets. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé aussi, je dirais, dans d'autres grandes manifestations. Donc voilà, donc il y avait ça. Et puis tout d'un coup, ça touche aussi donc, le racisme et la mort de ces deux garçons qui sont morts par l'intervention des voltigeurs, un et l'autre, par un policier qui était ivre et qui a tué donc, Abdel cette nuit-là. Et Malik est mort sous les coups des voltigeurs.
Alors Malik Oussekine, maintenant on connaît bien enfin les faits. Hein. Lui, il était vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Il sortait d'un club de jazz, il a été pris pour un manifestant. Et puis évidemment, circonstances aggravantes, je le dis avec beaucoup de guillemets, sans doute. On comprend d'ailleurs en voyant aussi des images d'archives dans nos frangins, ses origines. Lui, il est d'origine algérienne, il est malade des reins. Il a une maladie des reins qui fait qu'il meurt des coups répétés reçus donc par ces voltigeurs à moto. Malik Oussekine, mais donc la même nuit, il y a Abdel Ben Yahia, dont on n'a pas entendu parler.
Oui, et c'était aussi ma volonté depuis le début. Il y a très longtemps que je voulais parler de Malik et Abdel. Mais j'attendais de faire deux autres films avant qui étaient indigènes, Hors la loi, et celui-là, c'est le troisième film. Et donc, pour moi, j'avais envie d'associer cette même nuit. C'était très important pour moi. Je n'aurais pas fait de film s'il n'y avait qu'une partie de l'histoire. Pour moi, c'est toute une histoire dans cette nuit, et c'est la même histoire. Et c'est deux jeunes garçons, dont un, effectivement, Abdel, dont on n'a pas... entendu parler suffisamment, parce qu'en faisant le tour de France, j'ai pu le constater, et même dans la presse, quand je rencontre les journalistes, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y avait donc aussi la mort d'Abdel quelques heures avant celle de Malik. Pour moi, c'était très important, et puis aussi pour rendre hommage à ces deux jeunes garçons qui m'a bouleversé, quoi, cette histoire, quand à l'époque j'ai été très marqué, et puis aussi rendre hommage à leurs familles qui ont vécu donc ça, voilà, violemment, et en plus qui n'ont pas eu la justice à l'arrivée, quoi.
Malik Oussekine, Abdel Ben Yahia, deux visages comme deux faces d'une même pièce de monnaie. On en parle cette semaine dans tous les cinémas du monde. Après cette pause musicale inspirée par votre film Nos Frangins, Rachid Bouchareb, c'est Malavida de la Mano Negra. Malavida, un titre très dansant, très dynamique que l'on entend dans Nos Frangins, Rachid Bouchareb, alors qu'on voit à l'écran des images de répression, de manifestations. C'est très saisissant comme procédé, ce décalage.
Oui, c'est vrai, mais quand j'ai décidé que les places de la musique, c'est venu naturellement associé à l'archive, que ce soit Rita Mitsouko ou Renaud, dans le film, que ce soit associé à ça. Donc à un moment, j'avais envie de... Effectivement, La Mano Negra, j'aime beaucoup, et j'avais déjà utilisé une de leurs chansons dans un film qui s'appelait Cheb, qui parlait de la double peine et de l'expulsion. J'avais déjà utilisé ça en 91. Et tout de suite, ils me sont revenus. C'était pas la même chanson, mais tout de suite, j'ai eu ce flash et je me suis dit, il faudra La Mano Negra. Et arrive la deuxième partie des archives qui sont montées. Hein. Ils n'ont pas été montés avec la musique. On met la musique et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, je sais pas, il y a une rencontre entre la musique et l'image.
Et puis on se rend compte quand même de la violence de l'époque. Bah, bon, après, je ne sais pas si c'est... vous allez me le dire, si c'est différent avec maintenant. Mais enfin, on se rend compte quand même, c'est des rapports très violents dans les manifestations, avant même la mort de Malik et Abdel.
Mais c'est le débat que nous avons dans toutes les salles, parce que très vite, les gens disent, parle de cette violence, bien sûr. Et puis, surtout, le constat à l'arrivée pour vraiment... Je ne triche pas là-dessus, c'est que mais rien n'a changé. Mais vraiment, les gens disent, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé 36 ans. En tout cas, mon film est daté à partir de là. Mais entre là, aujourd'hui, le public qui a vu le film dans pas mal de villes de France ne voit pas une évolution.
En tout cas, pas une évolution positive, clairement. Vous le disiez, donc, dans la nuit du 5 au 6 décembre, Malik Oussekine meurt sous les coups de policiers à moto. Et il se trouve que cette même nuit, un autre jeune homme d'origine algérienne est tué donc, par un policier alcoolisé. C'est Abdel Ben Yahia. Il essayait de séparer deux personnes qui se bagarraient. Et un policier pris de boisson a sorti son arme, a tiré.
Oui, absolument. Et ça, c'est un des fils Abdelkader Ben Yahia, un des fils de la famille Ben Yahia, que j'ai rencontré et qui m'a donc raconté la scène, puisqu'il était avec son frère et il m'a dit qu'il était à l'intérieur et il m'a raconté que son frère allait séparer. Et puis son frère, c'est pas étonnant, en tout cas pour moi, parce qu'on le voit à la fin du film, quand j'ai retrouvé cette archive, on voit que c'est un jeune homme, un visage d'ange, qui s'occupe d'enfants, qui est animateur.
Vous avez retrouvé une archive
qui dit,
où on
je
le
veux parler.
Voit,
oui.
Parce qu'il participait à un stage, je crois, c'est ça?
Non, il s'occupait d'enfants. Il était animateur, je pense, sportif, mais il était très engagé dans ce qu'il faisait. Et il disait, moi, ce que j'aime, c'est parler avec les gens. Donc, je me suis rendu compte que, finalement, c'était sa nature, peut-être, d'aller dans une bagarre, d'intervenir au milieu de cette violence. Et c'est lui qui est tué. Et ça, j'ai eu le récit de un de ses frères qui était avec lui et qui m'a raconté la scène du café, comment, parce qu'il était à l'intérieur, et comment les choses se sont un peu déroulées ce soir-là.
Vous avez confié le rôle du père d'Abdel Ben Yahia à l'acteur Samir Ghesmi, qui joue donc ce modeste garagiste, peut-être très représentatif de toute une génération d'hommes venus d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, venus travailler en France, qui ont élevé leurs enfants dans l'idée qu'il ne fallait surtout pas faire de vagues, qu'il ne fallait pas se faire remarquer.
Mais nos parents voulaient, si vous parlez de l'immigration en général, cette génération, comme étaient les miens et celles des autres que je connais, puisque j'avais des copains avec qui je vivais, de notre communauté qui vivait donc en banlieue. Donc effectivement, nos parents avaient peur pour nous. Pourquoi ils avaient peur pour nous? Parce qu'il y a eu octobre 61, 20 ans avant.
Et donc octobre 61, donc c'est la
répression. C'est le massacre du 17 octobre, où on ne sait pas encore le chiffre définitif, où il y a 200-300 morts dans cette nuit. Donc quand vous avez ça, moi je parle de ma famille et de celle que j'ai connue, vous avez donc effectivement la peur pour vos enfants. Et ça ne veut pas dire que les parents sont démissionnaires, ou ça ne veut pas dire que les parents, ils ont peur et pas confiance en la police. C'est tout, parce qu'il y a des événements importants qui se sont passés. On sort de... La colonisation n'était pas finie, mais là on est à 20 ans de la dépendance, en tout cas de l'Algérie, ou un petit peu plus. Donc, c'est des gens qui... ces pères-là, à l'époque... et là, je ne parle pas de ce moment d'octobre 61, mais bien après, c'était de protéger leurs enfants. C'est pour ça que je trouve que c'est des héros. Et ils avaient une dignité, et ils avaient... une force, mais ils savaient où ça pouvait être dangereux pour leurs enfants. Moi, on ne voulait pas que je sorte la nuit. On me disait à chaque fois, il faut faire attention et tout. Voilà, j'ai grandi avec ça et je ne suis pas le seul.
Mais on ne vous parlait pas d'octobre 61 vous l'avez reconstitué. Si. Ah, on vous le disait aussi.
Si. Moi, j'ai vu, j'étais tout petit, mais quand ma mère est partie manifester, et puis de l'autre côté, mon père aussi, ils sont pas. Ma mère, elle a été arrêtée avec ma tante et tout. Parce qu'à un moment, dans les bus qui partaient, la police arrêtait les bus même avant qu'ils arrivent à Paris.
Ah oui.
Donc, j'ai vu ça et l'attente de savoir. Où est votre mère et tout. Donc, je me souviens un peu de ces moments-là. Et puis après, effectivement, on n'en parle plus.
Alors, dans Nos Frangins, un personnage fait le lien entre les deux affaires, l'affaire Malik Kousekine, l'affaire Abdel Ben Yahia. C'est le commissaire Mattei, joué par Raphaël Personnaz, un policier de l'IGS. Hein, c'est la police des polices.
J'ai pas fait de procès verbal, vu que les ordres étaient d'attendre notre arrivée. Le père est là.
Le père est là?
Oui, il est assis là-bas. Ses voisins l'ont prévenu, mais il est au courant de rien. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. Sa famille habite la Courneuve.
Bonsoir, monsieur. Je suis l'inspecteur Mattei.
Bon, votre fils a été blessé dans une bagarre. Vous comprenez ce que je dis?
Oui, je comprends, oui.
Alors, le SAMU l'a pris en charge.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Mais vous pourrez pas le voir cette nuit.
Pourquoi?
Écoutez, monsieur, laissez-nous faire notre travail. On sait pas encore ce qui s'est passé, il y a une enquête qui est en cours, là. Votre fils est majeur, vous savez ça?
Quand je le vois.
Comment? C'est votre fils aîné?
Oui, c'est mon fils, oui. C'est comme un rack.
Il va falloir remettre vos enfants dans le droit chemin, monsieur. Ils peuvent pas se battre dans les rues comme ça, c'est un trouble à l'ordre public, vous savez ça.
Rachid Bouchareb, le personnage du commissaire Mattei, c'est un personnage inventé?
Oui, complètement, comme aussi la construction du père d'Abdel, parce qu'il y a une part de fiction. Comme dans cette scène, par exemple, le policier lui ment, mais le père, il est en train de, pas de décoder, mais il sent qu'il y a des trucs qui vont pas. Il est là, et il s'écrase pas quand même, mais il sait quelle voie il doit prendre face à lui. Donc, donc j'ai construit un peu ce policier qui n'existe ou qui existe ou pas du tout, parce que je n'ai pas eu accès à la police des polices, au dossier. Et donc, j'ai créé cette séquence où un policier, parce qu'il a bien fallu à un moment cacher la mort d'Abdel à sa famille. Donc, j'ai créé cette séquence où il y a cette rencontre dans ce commissariat et on a un père face à ce policier qui, sa tenue, d'abord il a une taille beaucoup plus grande que lui, il le regarde de haut, et vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas complètement, comment on dit, crédule ou machin. Non,
il n'est pas dupe.
Il n'est pas dupe, voilà. Il a cette intelligence de comprendre où il a les pieds, voilà, et quel rapport il doit installer à ce moment-là.
Mais c'est quand même asymétrique en même leur temps, rapport. Le policier qui dit il faut tenir vos enfants. Enfin, nous, spectateurs, on sait à quel point c'est révoltant, injuste, on a envie d'intervenir.
Non, absolument. Mais lui dit à son fils, bon, viens, on y va. Parce qu'à un moment, c'est lui qui reprend la main sur son fils en disant, bon, tu te rhabilles, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il y a une répartition pour moi à ce niveau-là. Et puis, on est aussi dans la fiction, hein. Quand on n'a pas tous les éléments de partout, et puis même à un moment, bon, on fait du cinéma, on essaie. Le propos était aussi de rester très respectueux par rapport à la famille, rendre hommage à ces deux jeunes garçons, révéler. Et je savais que dans l'histoire aujourd'hui, la mort d'Abdel, elle n'était pas d'une façon juste, en tout cas dans son existence. Et le film, il est là aussi pour dire chaque année que quand la presse écrira, c'est mon avis, je suis peut-être naïf, mais Malik et Abdel. Abdel et Malik, voilà. Ils seront associés tous les deux à cette même nuit et à cette même histoire.
Le commissaire Motéhi, il a pour ordre d'étouffer ces deux affaires. Est-ce que dans votre esprit, Rachid Bouchareb, il incarne aussi la mauvaise conscience des Français? Parce que nous, spectateurs, on le découvre un peu plus au fil du film. On voit bien que ce n'est pas un salaud. On voit bien qu'il a des états d'âme. Enfin, en tout cas, son corps parle, quoi.
Oui, on peut espérer qu'il en ait quand même. On peut espérer que... il est un être humain et qui, tout d'un coup, a allé faire toutes les tâches qu'on lui confie. Moi, j'ai imaginé, du fait, avec la scénariste, du fait qu'on n'ait pas accès au dossier dans nos recherches. Bon, on a créé ça. Ça ne veut pas dire que je serais resté enfermé aussi dans le dossier judiciaire par rapport à quel policier a fait quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce policier, effectivement... j'avais imaginé avec la scénariste, il est en...
Kauter Adimi.
Voilà, il est en permanence, dans son bureau, un vendredi soir. Et puis, la nuit du 5 au 6, et puis on l'appelle, on lui dit, tu vas là, à Pantin. Il va là-bas, et puis arrivé là-bas, il doit faire son travail, puisqu'on lui a dit au départ ce qu'il a à faire, c'est-à-dire cacher l'information. Et ensuite, paf, on le rappelle et il doit aller dans un autre endroit où on lui dit, bah attends, il y a une deuxième affaire, oublie l'autre, ça y est, c'est réglé, t'as dit que c'est fini, on verra, maintenant il faut s'occuper de ça, parce que ça c'est urgent, parce que ça il y a des témoins dans la rue, parce que ça il y a une caméra qui a débarqué en pleine nuit, voilà.
En même temps, comme vous le disiez, Rachid Bouchareb, on se souvient de Malik Oussekine. Il y a eu des manifestations. Eux aussi, la famille s'est battue pour faire établir la vérité. Là aussi,
mais
il y a eu une tentative.
Mais ça, c'est après dans le film.
Après,
oui, non, mais ça, c'est...
Pourquoi on se souvient de l'une et pas de l'autre, alors ?
Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais préciser une chose. Mm-hmm. C'est que le film se passe sur 3 jours. Et effectivement, on a dans le film... parce qu'on m'a posé la question à une projection. On m'a dit, mais pourquoi... Voilà, on m'a posé la question en me disant pourquoi il n'y a pas eu de... On ne montre pas les manifestations de la famille. Parce que c'est après. Moi, j'ai traité avant. Bien sûr qu'après, ils s'organisent. Bien sûr qu'après, il y a toute la famille, les frères, la mère, le père, pour aller exiger des réponses. Et puis après, rendre Jacques Vergès comme avocat. Bien sûr,
de la famille Oussekine.
Non, je parle de la famille...
Benyaya.
Voilà. Oussekine, c'était Kejman. Voilà. Et donc, ensuite, arrive tout le combat de la famille. Mais ça, c'est pas le film.
Alors, le film s'intitule « Nos frangins », comme pour induire un lien fraternel entre Malik Oussekine et Abdel Benyaya. Enfin, je ne sais pas si c'est l'idée de « frère dans la mort ».
Absolument. C'est Renaud qui, avec cette belle chanson, s'est engagé très vite, je trouve. Parce qu'elle date de 88, quoi. Mais il a écrit une chanson qui était magnifique. Et qui a donné le titre du film.
Mais c'est aussi ce que l'on voit dans le film, c'est aussi les frères, frères ou sœurs, le cas de Malik Oussekine, avec sa sœur jouée par Lina Koudry, son frère joué par Reda Kateb. Il y a aussi le frère donc, d'Abdel. On a un sentiment que c'est les frères et sœurs qui vont porter ce combat, de justice en tout cas.
Oui, pour moi, c'est comme ça que je vois l'histoire, c'est-à-dire qu'on a là... si on est plus large que par rapport au sujet, la première génération, elle est là. Elle manie le français comme on connaît à l'époque. Il y a un apprentissage pour eux. Et puis après, toute une histoire. Mais nous, leurs enfants, on était confrontés à l'administration, à leur côté. Et puis, on avait une autre vision dans la société française. Je parle de les enfants de l'immigration de cette époque. On avait une autre vision de la place qu'on devait occuper dans la société. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces mouvements, la marche des beurs en 83, je crois. Et puis, tout ce qui s'est passé par la suite. Et là, c'est au cœur de la revendication d'être français comme n'importe quel autre dans le pays.
Votre film, Rachid Bouchareb, est très ancré dans la réalité. On en a parlé, des images d'archives. Mais vous incluez des images presque onirique avec la figure d'un griot. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est dans, à l'ouverture du film. C'est un homme qui, à la morgue, parle aux morts et on va le retrouver à différents moments. Alors, pourquoi ? Il a presque un statut de comme le cœur antique, un peu.
Oui, mais je cherchais la façon, encore une fois, hein, on écrit un film qui n'est pas toujours proche de la réalité tout le temps. Quand je dis de la réalité, c'est-à-dire de ce qui pourrait se passer cette nuit à la morgue. Forcément, on a quelqu'un qui véhicule les corps, quoi, qui les déplace. Bon, bah, ça, on se dit oui, c'est vrai. Mais que ce personnage qui s'appelle Ousmane soit là pour accompagner un mort qui n'a pas de nom, et puis un autre jeune garçon qui ressemble au premier et qui a envie d'être un passeur, là, à ce moment-là. Mon envie, c'était, un, de parler de la morgue, en tout cas, et d'être témoin de ce qui se passe, mais lui, on ne le voit pas, quand les policiers échangent. Bon, il n'est qu'un immigré africain. En quoi il représente un danger ? Quoi, on le
calcule pas.
Non. Lui, il n'est pas calculé du tout dans cette séquence, du tout. Et donc, j'avais envie pour trouver aussi un moyen de raconter ça, de raconter cet accompagnement, de pouvoir revenir aux deux garçons d'une autre façon. Parce que pour essayer de mettre leur histoire en continu à travers Ousmane, qui va les accompagner, comme il dit, jusqu'à ce que la famille vienne vous chercher.
Rachid Bouchareb, vous explorez la mémoire de l'identité française et maghrébine depuis plusieurs films. Ici, un extrait d'Indigène, 2006, où le destin de soldats venus des colonies pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les tirailleurs peuvent se faire tuer pour nous sans histoire, mon capitaine. Mais s'il y a injustice, ça peut exploser.
Vous les connaissez, les indigènes, Martinez ?
Ils ne les appelaient pas comme ça devant eux, mon capitaine.
Les musulmans.
Ça non plus, n'aime pas.
Comment voulez-vous qu'on les appelle, sergent ?
Les hommes, mon capitaine. Les hommes.
Passe.
Mon capitaine, avec nos frères d'armes français, on combat sous le même drapeau, sur le même terrain, face au même ennemi. Il faut partager les tomates aussi. Les balles allemandes ne font pas de différence, mon capitaine.
Sergent, dorénavant, quand il y aura des tomates, elles seront pour tout le monde.
Un extrait d'Indigène. Vous l'avez un peu évoqué au début de cette émission, Rachid Bouchareb. Nos frangins s'inscrit, c'est le troisième volet d'un triptyque. Conçu comme un triptyque.
Oui, c'est pour ça que Nos frangins, et je le savais depuis le début, devait être le dernier volet, en tout cas pour moi, des grands-parents, des parents et des enfants. Donc, Indigène était, cette injustice énorme vis-à-vis de. Toujours un thème de l'injustice, finalement, jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est ça le thème central, cette injustice à travers les grands-parents, puis les parents, puis leurs enfants. Donc, et puis la violence vis-à-vis d'eux. Donc, comme dans La Loi, quoi, toutes les scènes qu'il y a, dont Octobre 61 termine le film. Et après, nous sommes en 86, 25 ans après. Donc, c'était important, c'est-à-dire que ses grands-parents, en tout cas, ces soldats indigènes qui venaient d'Afrique du Nord et d'Afrique, pas oublier, et d'autres pays comme Madagascar, l'Indochine. On a fait venir beaucoup de soldats de l'Empire colonial dans cette armée d'Afrique. On leur a demandé des sacrifices, ils les ont faits. Et puis, par exemple, ils pensaient, pour un pays, je prends l'exemple de l'Algérie, on leur avait promis un changement pour les populations qui vivaient en Algérie, par exemple. Ça doit être la même chose pour les autres populations dans certains pays, parce que dans les années 60, on commence la décolonisation avec donc les revendications des populations. Et là, ils se rendent compte que non, l'accès au vote ne sera pas possible, ça non plus, donc que rien change. Jusqu'à ne pas leur reverser les pensions comme leurs frères d'armes français. Donc tout ça s'additionne pour amener hors la loi, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, mais que j'ai traitée en France, parce que c'est celle que moi je connais le mieux. Et puis, pour indigènes, quoi, pour dire que finalement, la réparation, l'injustice, elle a été réparée plus ou moins, pas totalement, mais on a quand même versé une pension.
Oui, avec à Indigène, ces soldats. Indigène a eu un effet. Le film Indigène a eu un véritable effet. Ça a visiblement fait changer la loi qui était gelée depuis 59 hein, sur les pensions des anciens combattants issus de l'immigration.
Oui, absolument. Mais ça, le film a participé à côté de je me souviens, d'associations. Il y en avait une qui était tenue par un colonel qui était, je ne sais plus dans quelle ville de France. Mais il y avait plein d'associations qui travaillaient depuis un demi-siècle
ouais.
pour aider leurs frères d'armes qui venaient donc d'Afrique du Nord, d'Afrique.
Mais le pouvoir du film, et le prix collectif d'interprétation
voilà,
à Cannes.
À un moment, mais parce que moi, je les avais rencontrés, et puis à un moment, ils étaient là à pousser, mais depuis tellement longtemps. Mais c'est parce qu'ils ont fait cet énorme travail que tout d'un coup, moi, j'arrive avec ce film, et puis la balance, elle fait... Parce que le public, parce que Cannes, parce que le public, 3,5 millions de spectateurs, tout ça a poussé pour que... Il décide de faire quelque chose.
Et là, avec nos frangins, il y a l'espoir, enfin, déjà ne serait-ce que, comme vous le disiez, que Abdel Ben Yahia soit associé, enfin, en tout cas, ce
oui,
cas.
Oui, parce que moi, en faisant le tour de France, comme celui des médias et tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire, personne ne connaissait.
Non, ça c'est vrai.
Et ça, moi, je le savais depuis très longtemps, qu'il y avait quelque chose là qui n'était pas juste. Et donc, j'ai fait tout ça aussi. Mais ça, c'est toujours les thèmes, pour moi, un peu de... Et je ne sais pas si ça sera utile. En tout cas, pour moi, c'est utile. Et j'espère qu'aussi, l'hommage dont on parlait avec les acteurs, voilà, de rendre hommage un peu à ces deux jeunes garçons qui nous ressemble, je dirais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en 86, et de rendre hommage aussi aux familles. Voilà, on l'a fait aussi dans ce sens, comme j'ai rendu hommage aux soldats, quand j'ai rendu hommage à cette immigration pendant la guerre d'Algérie. Voilà, ça reste dans ce que je fais avec sincérité, honnêteté.
Et au-delà du cadre, c'est de deux garçons, il y a aussi, et parce que j'en parle, parce qu'il y a une mention à la fin de votre film sur le cas des violences policières. À la fin du film, Rachid Bouchareb, il y a un carton qui rappelle que les brigades de répression de l'action violente motorisée ont été créées en 2019, au moment des manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a recréé des voltigeurs à moto. Alors que ça avait été dissous, justement, ce corps.
Oui, oui, oui. Après
le décès de Malik Oussekine.
Oui, absolument. Et puis après, bon, on se dit, est-ce que les gens qui décident n'ont pas de mémoire ? Ou alors est-ce qu'ils sont nés en 86 ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on se dit, mais il y a eu un passé, quoi. Alors, est-ce que ça se décide et qu'on s'est dit, bon, on remet ça, mais on sait qu'il y a eu ça avant. Je ne sais pas, moi, comment se prennent les décisions. Mais on est dans quelque chose qui fait comme ça une boucle. C'est-à-dire 36 ans après, même avant, 33 ans après ou 34 ans après, on réinstalle encore les brigades motorisées.
Ça, on vous en a parlé aussi dans tous les débats que vous
oui,
avez
les
fait
gens, oui,
sur la répression des manifestations de Gilets jaunes.
Oui, bien sûr. Les Gilets jaunes, c'est revenu souvent pour parler... de tous ces gens qui ont perdu un œil, un pied, une main, toute cette... Bien sûr, c'est revenu dans les débats tout le temps, mais de toute façon, à chaque fois que le film est diffusé et qu'on fait des débats, on parle beaucoup de ça. Le public a envie de parler de ça, et le public attend des réponses pour un changement, une sérénité pour pouvoir aller manifester, parce que les gens ont peur. Et ça, il faudrait que... les gens qui nous dirigent, ils puissent aller à la rencontre du public pour parler de ça aussi. Ça fait partie des droits que chaque citoyen a, mais ça serait intéressant qu'ils écoutent. Une femme à 75 ans dit « moi j'ai peur d'aller parce que je ne peux pas courir » ou des parents qui disent à leurs enfants « il ne faut pas y aller » ou des parents qui ne veulent plus aller avec leurs enfants. Ça, c'est intéressant à mettre dans le débat, je trouve quand même, parce que c'est la demande des gens. Donc, y aura-t-il une solution à ça ? Seront-ils entendus, ces gens ? Je ne sais pas, ça, après...
Les pouvoirs publics vont dire, les responsables disent, il y a des éléments perturbateurs violents dans les manifestations, blablabla, enfin, on réprime.
Oui, d'accord, mais... Ouais, d'accord, mais bon, ça, je l'ai déjà entendu il y a tellement longtemps, il y a 35 ans, 40 ans. C'est-à-dire qu'on a toujours dans ces mêmes choses, et pourtant, ça n'a pas empêché les acquis sociaux, ils se sont faits avec des grandes manifestations, et pour essayer de faire avancer la qualité d'une société, des avancées sociales, quoi. Ça s'est fait comment ? Ça s'est fait, bien sûr, en sortant dans la rue, d'une façon paisible. Je sais pas, c'est très complexe, ça. Aujourd'hui, on est arrivé à un nœud, je trouve.
On espère que nos frangins va pouvoir permettre un peu de le dénouer, ce nœud, Rachid Boucharem. Vous avez fait beaucoup d'avant-premières, vous le disiez, en France, pour accompagner ce film. Dans un contexte, on le sait, hein, où les salles de cinéma peinent à retrouver leur public. Mais là, vous avez vu le public au rendez-vous.
Ah oui. On a fait des salles importantes. Une fois, on a fait 900 spectateurs, 400 spectateurs, 500, 300, 200, en fonction des villes et des endroits et des jours de la semaine. Mais c'était toujours... Il y avait toujours plein de gens. Mais parce que le public aussi, on a ressenti... Et on n'est pas les seuls, hein, parce qu'on a croisé pas mal d'équipes de films, même beaucoup. On se croisait dans les villes. Donc ça veut dire que c'est la première fois que je fais ça, d'une façon aussi longue. Ça a commencé fin août. Jusqu'à là, tout récemment, la dernière salle que j'ai faite, c'est Strasbourg. Mais le spectateur, je trouve qu'il est très content de pouvoir venir à ces soirées, parce qu'il sait qu'après, il peut prendre la parole aussi et évoquer tout ce qui lui pose problème aujourd'hui dans la société, parce que le sujet aussi...
S'y prête.
Voilà.
Et le fait que Nos Frangins soit le candidat algérien à l'Oscar du meilleur film étranger.
Ouais, bah c'est bien, c'est une nouvelle pour le film, pour pouvoir. Ça m'est déjà arrivé trois fois et d'être nominé trois fois avec trois films. Alors maintenant il y a celui-là. Je sais pas quel va être son itinéraire et jusqu'où il va aller, mais. Mais on peut toujours être content d'être sélectionné par le pays, par l'Algérie, pour aller présenter le film.
Rachid Bouchareb, merci. Je rappelle que votre 10e long métrage, Nos Frangins, est actuellement en salle en France. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Une nouveauté, c'est le duo de Penelopes qui fait chanter les actrices Nathalie Baye, Asia Argento ou ici Isabelle Adjani sur l'album Life is Long. On écoute le titre The Last Goodbye. Bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. On passe à une autre nouveauté de la semaine, Awa, le deuxième long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré. 2 ans après Mignonne, la cinéaste autodidacte revient avec ce film distribué depuis hier sur la plateforme Amazon Prime Video. Awa, c'est un conte de Noël particulier. L'histoire d'une adolescente de 15 ans qui doit chercher une famille d'accueil, sa grand-mère étant mourante. Maïmouna Doucouré.
Awa est une jeune fille très très déterminée qui est prête à tout pour pouvoir réaliser son rêve de se faire adopter par Michelle Obama. L'idée m'est venue par une volonté très viscérale de mettre à l'honneur un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Le personnage de Awa est une jeune fille albinos qui a vécu beaucoup de discrimination quand elle était plus jeune.
En Afrique ou en France ?
C'est une jeune française avec une double culture, sa grand-mère griotte malienne. Mais en France, beaucoup de discrimination. Vraiment, c'est documenté. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles albinos dans le cadre de l'écriture de ce film qui vivent aujourd'hui des atrocités, quoi, enfermées dans les toilettes de l'école élémentaire pendant toute leur scolarité, par les autres camarades, frappées, martyrisées. J'ai une petite fille, donc qui a 4 ans, qui n'est pas albinos, mais qui a une autre différence, et qui est donc un enfant extraordinaire. Et c'est une façon pour moi de leur rendre hommage, pour leur dire que tous ces enfants-là comptent dans la société, et de leur donner un message de force, d'amour, d'espoir.
Alors effectivement, il y a un éloge de la différence dans ce film, Awa, Maïmouna Doucouré. Dès le début, le fait aussi que Awa va rencontrer la chanteuse Isolde, elle-même aussi fait tout un spectacle, ses chansons chantent la différence. Le fait qu'on puisse et qu'on doive voir accepter des corps différents.
Exactement. Alors, c'est vrai que les choix n'ont pas été faits au hasard. J'ai choisi la chanteuse Isolde déjà dans un premier temps par rapport au fait que c'est une grande artiste avec une voix incroyable. Et puis, le message qu'elle porte, je trouve fort et important aujourd'hui. Justement, elle se bat pour apporter une pluralité au corps des femmes, enfin en tout cas telles qu'ils sont exposées dans les médias, et justement faire mentir ces dictats de mode sur nos corps. Donc il est important pour moi, oui, de mettre en avant ce personnage-là, en tout cas que Awa rencontre cette femme et tout ce qu'elle véhicule à travers ses chansons et à travers ses discours.
On parle de Isolde, mais évidemment, au casting de votre film, il y a l'incroyable diva malienne Oumou Sangaré,
oui,
qui joue la grand-mère d'Awa. Mais comment vous avez fait ?
Alors, Oumou Sangaré, c'est une chanteuse que je connais depuis que je suis petite, parce que je l'écoutais quand j'étais encore dans les pagnes de ma mère. Et elle a bercé toute mon enfance. Du coup, c'est vrai que ses chansons, à chaque fois que je les écoute, pour moi, ça fait vraiment figure de Madeleine de Proust. J'ai toujours plein d'émotions qui me rappellent mon enfance. Et quand j'ai écrit le personnage de Maminata, j'ai très rapidement pensé à elle. Et donc, grâce à une personne que je connais, donc, qui s'appelle JB Magassa, qui travaille avec elle, je l'ai contactée et il m'a accompagnée à Bamako pour la rencontrer le temps d'un week-end. Et on s'est rencontrés et on a fait quelques essais. Enfin, c'était pas vraiment des essais, c'était plus des improvisations face à la caméra. Et là, j'ai été subjuguée, quoi. Vraiment, à travers l'écran, de voir sa prestance et de voir à quel point... de voir l'évidence. On dirait qu'elle avait fait ça toute sa vie. C'était tellement facile pour elle d'être juste dans la peau d'un personnage et de l'incarner face à la caméra.
C'est son premier rôle au cinéma ?
C'est son tout premier rôle. D'ailleurs, la plupart des personnages, enfin tous les, que ce soit Sania Alifa, Isolde sa première fois, Oumou Sangaré pareil, et puis Thomas Pesquet.
Oui, parce qu'il y a aussi Thomas Pesquet dans son propre rôle.
Dans son propre rôle, qui joue pour la toute première fois de sa vie aussi. Donc je suis très très honorée d'avoir, de les révéler comme ça dans mon film. Et surtout, Thomas Pesquet, pourquoi ? Je pense que c'est un peu pour moi l'incarnation du rêve aujourd'hui. C'est notre héros national. Je trouve que ça faisait sens par rapport au message du film. On est dans un conte moderne qui est une sorte d'hymne à la détermination. Donc, avoir Thomas Pesquet, pour moi, c'était...
La tête dans les étoiles.
Oui, la tête dans les étoiles. Et je pense que c'est une sorte de... ça amenait un côté cosmotico-poétique au film qui me plaisait beaucoup. Et puis surtout le fait qu'il aille dans l'espace et il y a toute cette dimension dans l'imaginaire collectif autour du fait que quand on meurt, on va au ciel. Donc, enfin, je trouve que ça fonctionnait parfaitement pour le conte que je racontais.
Awa avec Sania Khalifa dans le rôle titre, mais aussi Oumou Sangaré, Iseult et Thomas Pesquet. C'est à voir sur Amazon Prime Vidéo. Direction pour finir le Maroc et son célèbre Rix Café. Une reproduction quasi à l'identique de celui du non moins célèbre film classique hollywoodien Casablanca, un film des années 40 qui a marqué des générations de cinéphiles et qui a fait connaître la ville marocaine aux Américains. Un lieu au répertoire jazz et blues des années 30 et 40 et aux lumières tamisées, on se croirait dans une séquence du film. Nadia Ben Mahfoud, notre correspondante au Maroc, nous présente ce lieu.
Une réplique mythique du classique hollywoodien Casablanca, sorti en pleine Seconde Guerre mondiale il y a maintenant presque 80 ans. Un film culte où le Rix Café est le théâtre de la romantique histoire d'amour entre Rick Blaine et Ilsa Lund. Leur histoire commence à Casablanca, mais en réalité, aucune scène n'a été tournée au Maroc. Casablanca a été intégralement filmé dans les studios Warner Bros. En Californie. Pourtant, depuis 2004, le Rix Café existe à Casablanca. Derrière l'idée de recréer ce lieu emblématique se trouve l'ex-diplomate américaine et amoureuse du film, Cathy Krieger. Issam Chabba, directeur et pianiste du Rix Café.
Elle a été surprise de ne pas trouver aucune référence au film Casablanca à Casablanca. C'est-à-dire qu'en 7 ans, quand on descend à Casa, de se dire tiens, on va aller au Rix Café. Et donc de là est venue l'idée, il faudrait faire un Rix Café.
Arcade en stuc, poutres sculptées et lustres en cuivre, le Rix Café est aménagé dans un riad typiquement marocain.
Il est largement inspiré du décor du film et surtout de l'esprit. C'est-à-dire un endroit où des gens de plusieurs cultures différentes peuvent se retrouver dans un climat amical, une cuisine simple, un peu de musique et partager peut-être le mythe du film ensemble.
Cette promesse d'une expérience immersive, ils sont nombreux à venir de loin pour la vivre. Agnès a fait le voyage depuis le Canada.
C'est un lieu historique. C'est agréable de rencontrer l'histoire, surtout quand on vient de si loin. Alors il fallait qu'on vienne y jeter un coup d'œil pour comparer entre la fiction et la réalité. Et c'est si bien fait. Si je passais plus de temps à Casablanca, j'y serais revenu encore et encore.
Si ce film a marqué des générations en dehors des frontières du royaume, les Marocains, eux, ne le connaissent pas forcément. Jeanne Bougrine, critique cinéma.
J'en ai plus entendu parler à l'étranger. C'est pas un film emblématique d'ici. C'est pas un film qu'on a beaucoup vu à la télé ou qui a été beaucoup projeté dans les salles au Maroc. Donc je pense que les gens ne se l'approprient pas.
Et effectivement, parmi les Marocains qu'on rencontre au Rix Café, on trouve cette jeune femme.
Je l'ai jamais vue. Je rentrerai peut-être demain, je le verrai.
Un film né à Hollywood, mais qui continue de vivre au Maroc. Nadia Ben Mahfoud, de retour de Casablanca, RFI.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Nicolas Parizère pour son nouveau long métrage, Le Parfum Vert. D'ici là, bonne semaine à tous.